On poursuit notre série dans Philippiens. En fait, ça touche à sa fin, hein? On est presque rendu à la fin. Puis j'ai mentionné qu'on allait passer deux dimanches sur le même passage, qui est un des passages les plus connus, peut-être un des passages les plus mémorisés aussi du Nouveau Testament, chanté souvent. Et si vous aviez un passage à mémoriser, ce serait celui-là. Philippiens 4, versets 4 à 9. Et ça nous parle de la joie. Dans Philippiens 4, 4, on lit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Dieu a à cœur notre paix et notre joie. Beaucoup plus qu'on en a conscience. Bien souvent, à travers les épreuves de la vie, on est dans l'anxiété, le stress, tout ça. Et puis, on veut bien faire, on veut faire les choses que le Seigneur nous demande de faire, sans prendre conscience que Dieu a vraiment à cœur notre joie et notre paix. Ça revient constamment à travers toutes les Écritures. Mais déjà, juste dans Philippiens, dans le passage de la semaine dernière, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, donc une intervention de Dieu, pas simplement du conditionnement de notre part, mais une intervention de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Verset 9, « Ce que vous avez appris de moi, reçu et entendu, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Non seulement sa paix sera avec vous, mais vraiment l'idée du shalom dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même, sa faveur sera avec nous. Et c'est ce même Dieu, ce même Jésus qui nous dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu a vraiment à cœur ta joie et ta paix. Sincèrement à cœur. Il a déployé ce qu'il y avait de meilleur à déployer. Christ lui-même est venu sur cette terre afin qu'on puisse être réunis avec Dieu, être sous la faveur de Dieu. Mais ce n'est pas simplement un état devant Dieu, « Dieu est avec moi ». Non, c'est Dieu qui veut m'accompagner dans ma joie. Et ça vaut vraiment la peine de livrer ce combat-là, cette bataille-là pour aller recueillir ce fruit, cette grâce que Dieu veut nous accorder. La semaine dernière, je mentionnais, il y a des grâces qui viennent automatiquement, systématiquement. Quand tu places ta foi en Jésus, l'éternité t'est assurée parce que c'est en vertu des mérites de Christ que nous sommes sauvés. Mais il y a d'autres grâces qui vont nous demander à nous d'obéir, de s'engager, de faire un effort. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous les donner. Dieu veut te donner la joie. Dieu veut te donner la paix. C'est une grâce qu'il veut te donner. Ça nous demande à nous de livrer une bataille pour ça, et c'est de ça dont on va parler ce matin. On va aller dans la prière, puis on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin parce qu'on veut apprendre, Seigneur, à vivre et à marcher par ton esprit. Et le fruit de ton esprit, c'est cette paix que tu veux nous accorder. C'est cette sérénité qu'il y a en toi, Seigneur, même à travers les plus grandes épreuves de la vie. Seigneur, je te demande de venir parler par ton esprit ce matin. Tu parles d'une paix qui surpasse toute intelligence parce que ça prend une intervention de ton esprit. Ce matin, je te demande, je te supplie, Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre au milieu de nous, au-delà de ce que moi j'ai pu comprendre de ta parole, au-delà de ce que moi j'ai pu tirer des Écritures, Seigneur, viens nous visiter ce matin. Ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont dans la joie, ceux qui sont dans l'anxiété, dans la fatigue, dans l'apathie, ceux qui cherchent, ceux qui t'ont trouvé, viens, Seigneur, te manifester à nous ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Amen.
Bonjour. Alors, la lecture de ce matin est tirée du livre de Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 à 9, dans la nouvelle édition de Genève. Encore, Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 9. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen.
Merci, Claude. Dieu a vraiment à cœur ta joie et ta paix, ma joie et ma paix. Doute pas de ça. Christ est venu non seulement pour nous sauver d'un jugement éternel, mais pour nous conduire dans une communion avec Christ. Et le désir de notre cœur et le désir de Dieu pour toi et moi, c'est qu'on puisse vivre cette intimité avec le Père que Jésus vivait. C'est ça qui est beau lorsqu'on lit les Évangiles, on voit la proximité qu'il y avait entre le Fils et le Père, alors même qu'il était un homme comme toi et moi, qui était un être humain, qui était incarné, il était près de son Père. Il y avait une intimité, une sérénité, une paix qui était là. Et Dieu veut t'accorder ça, Dieu veut te donner ça. Et pas d'une manière superficielle. Au Québec, on aime beaucoup l'humour. L'humour est moins drôle depuis que Juste pour rire et finalement, on a découvert toutes sortes de choses. Mais on aime rire. Je me souviens la première fois, moi des fois, il m'arrive d'avoir des fous rires, mais des énormes fous rires. Quelques personnes ici ont été témoins de mes fous rires. Puis pendant quelques années, j'avais une ostéo qui me traitait des blessures de sport. Puis dès qu'elle touchait à mes jambes, je partais sur des fous rires. Ça n'avait pas de bon sens. Ça faisait une heure de traitement, c'était une heure de rire complètement hystérique. Puis à un moment donné, elle s'appelle Hélène, mon ostéo, puis Hélène, elle me dit, « Yannick, il me semble, tu m'as dit qu'Esther, elle filait pas, elle était comme dans une dépression. Amène-la la prochaine fois pour ton traitement. » Littéralement. Fait que je me souviens la première fois que j'ai vu le film « Le dîner de cons » au cinéma. Mais le fou rire qui m'a pris, là, c'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai que c'est thérapeutique. Mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. Parce que ces bons moments-là qu'on peut avoir ou après avoir ri pendant 45 minutes, tu t'es dilaté la rate au maximum, ça fait du bien, ça libère quelque chose. Ça ne veut pas dire que le lendemain matin, quand tu rentres au boulot ou lorsque tu pars pour l'école ou quelles que soient tes responsabilités, il y a une joie qui t'habite. C'est très, très, très ponctuel, ces moments-là de joie qui viennent lorsque quelqu'un nous fait rire. Ce n'est pas de ça dont il est question. On parle d'une paix joyeuse ou d'une joyeuse paix qu'on a dans cette communion avec le Seigneur. Et Dieu a vraiment à cœur de t'accorder ça. Et donc, ce matin, mon résumé, c'est le même que la semaine dernière. Pour moi, c'est vraiment un message en deux parties. Les versets 4 à 9 se tiennent d'un bout à l'autre. Ça commence avec « Réjouissez-vous ». Et ensuite, le Seigneur nous instruit à travers Paul comment vivre cette joie-là. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. On va voir ensemble que nous devons accorder une grande attention à notre joie dans le Seigneur parce que notre paix, la paix de l'Église et son témoignage y sont intimement liés. Et peut-être que tu es de ces personnes qui disent « Non, la vie est difficile. Moi, quand je me lève le matin, je décide de me battre pour la journée. » C'est parfait, mais ce n'est pas tout à fait l'esprit de l'Évangile. C'est juste une partie de ça. Et donc, je te pose la question, est-ce que tu es quelqu'un qui est généralement joyeux, qui vit de la joie, de la paix avec le Seigneur. Et moi, je t'invite à porter attention à ça, parce que l'Esprit veut que tu y portes attention, parce que Dieu veut te donner ça. Mais comme on va le voir ensemble, ce n'est pas toujours facile. Souvent, c'est une bataille. Ça ne fait pas partie des grâces automatiques qui viennent avec l'Évangile. Quand tu deviens chrétien, il y a des grâces qui sont là systématiquement, et il y en a d'autres qui sont des fruits à récolter. Le Seigneur veut nous les donner, cette joie-là, c'en est un. Et donc, mon premier point ce matin, c'est la bataille pour la joie dans le Seigneur. C'est évident dans le texte, puisque c'est un impératif. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quand Paul fait ça, il nous pousse à aller dans une direction. C'est une exhortation à chercher cette joie-là. Puis elle est caractérisée, comme je mentionnais, ce n'est pas la joie ou le rire que tu vas avoir lorsque tu écoutes un bon show d'humour. Ça fait du bien. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Parce qu'il la caractérise, il dit qu'elle est dans le Seigneur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, se réjouir dans le Seigneur? Je vais le résumer comme ceci, puis Puis on va le développer tranquillement ce matin. Mais ça veut dire, premièrement, que je vais adopter la perspective de Christ. Rappelez-vous, plus tôt dans Philippiens, Paul va dire aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui étaient prêts à devenir serviteurs. » Et donc, avoir de la joie dans le Seigneur, c'est une joie qui est particulière, qu'on développe, qu'on découvre, qu'on apprend, qu'on acclimate, qu'on intègre dans notre vie, dans cette communion avec Christ. Et donc, je vais adopter la perspective de Christ en toute chose. Vous lisez les Évangiles, vous voyez que Jésus était en paix, Jésus était en communion avec son Père, Jésus accueillait, Jésus prenait soin, il était généreux. Mais Christ voyait les choses comme son Père les voyait. Et donc, lorsque c'est temps d'être serviteur, ce n'est pas un souci pour lui d'être serviteur. C'est une joie, c'est une gloire. Et donc, me réjouir dans le Seigneur, c'est d'apprendre à penser comme Christ. C'est apprendre à être animé des mêmes sentiments que Christ. Et ça devient une joie qui est imbattable. Ça devient une joie qui ne dépend pas des circonstances. Deuxièmement, c'est apprendre à apprécier tout ce que Christ a pourvu. Tout ce que Christ nous a acquis, cette nouvelle identité que j'ai en Jésus-Christ. Par exemple, l'apôtre Paul dit dans Philippiens, « J'ai l'assurance qu'il va terminer l'œuvre qui a commencé en vous. » Parce que c'est quelque chose qui nous a été acquis. J'appartiens à Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, ça m'est acquis. Et donc, je peux trouver une joie. Tu passes un mauvais temps, un mauvais quart d'heure. Tu es déçu de toi-même, tu es frustré. Ça va, je peux être déçu de moi-même. Mais si je cherche ma joie dans le Seigneur, je peux prendre pour acquis que l'Esprit Saint a à cœur de me transformer. Donc, il n'y a plus la place pour que je sombre dans un découragement incroyable pendant une semaine, deux semaines, parce que j'ai fait une bourde, j'ai fait une gaffe, je suis déçu de moi-même. Puis finalement, c'est juste entre moi et moi-même. C'est mon orgueil qui est froissé parce que je n'ai pas été à la hauteur de ce que je pensais pouvoir être, pouvoir livrer, pouvoir offrir. Mais non, si je me rappelle de ce que Christ m'a acquis, j'ai l'Esprit Saint en moi. Et lui est engagé dans ma transformation. Trouver ma joie dans le Seigneur, c'est non seulement avoir la perspective, les sentiments, les pensées de Christ, mais c'est prendre conscience que je suis en lui. Et donc, je ne suis pas seul dans ce combat-là. Je ne suis pas seul à livrer ce combat-là. Je ne suis pas seul dans mes épreuves. Tellement que Paul va dire, j'ai l'assurance qu'il va terminer l'œuvre qui a commencé en vous. Il est en vous. Il ne peut pas vous quitter, il est avec vous. Il a promis, lui, il est fidèle. Oui, tu es infidèle. Oui, tu manques. Oui, tu es déçu. Oui, ça t'enlève ta joie. Ta joie, trouve-la dans le Seigneur, pas en toi. Pas en toi. Parce que nous, hein, ça fluctue. Bonne performance, on est satisfait. Super belle évaluation au bureau. Génial. Le lendemain, tu as un travail qui est remis en retard. Tu as un contrat qui prend du retard. Ça bousille toute ta journée. Ta joie n'est pas dans ta performance. Elle est dans le Seigneur, dans l'œuvre que Christ est en train de faire en toi. Et enfin, qu'est-ce que ça veut dire prendre sa joie, trouver sa joie dans le Seigneur? C'est de se rappeler ce qui nous attend bientôt. Bientôt, le Seigneur revient. C'est ce qu'il dit au verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Toutes les souffrances de cette vie tirent à leur fin. » Que ce soit parce que je vais avoir ma promotion dans la gloire, je vais aller rejoindre le Seigneur, que ce soit parce qu'il revient, je vais avoir cette perspective de ce que le Seigneur me réserve pour l'éternité. Ces souffrances-là vont avoir un terme. Et alors même que je suis en train de souffrir, je cherche ma joie dans le Seigneur parce que je sais ce qu'il me réserve. C'est ça que ça veut dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et ensuite, Paul va le développer à travers quatre domaines. La semaine dernière, on a parlé des relations, dans le domaine des relations, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Si tu cultives cette joie qu'il y a dans le Seigneur, tu vas pouvoir offrir la douceur autour de toi. Mais si tu as l'âme amère, frustrée, parce que tu ne tournes pas vers le Seigneur dans les épreuves de la vie, tu regardes à toi, tu regardes aux autres, tu n'auras pas de douceur à offrir. Tu vas avoir une âme amère. Il y a des gens qui vieillissent comme des raisins secs, de plus en plus fripés. Je ne parle pas de la peau, là, ça, je pense qu'on ne l'évitera pas. Là. Non, je parle de l'âme. Je parle de l'âme. Il y a des chrétiens qui vieillissent bien. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Dans le domaine des relations, si je cherche ma joie dans le Seigneur, je vais avoir une douceur à donner. Le deuxième domaine qu'on a vu la semaine dernière, c'est lié à la prière, c'est dans les circonstances de la vie. Hein, Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Il y a toutes sortes de circonstances. Des fois, c'est des gens, des fois, c'est des choses, des fois, c'est la santé. Peu importe, c'est le climat. Je regarde la terre, je regarde où on s'en va. Ne vous inquiétez de rien. En aucune circonstance, ne vous inquiétez. Je ne me souviens pas si je l'ai mentionné la semaine dernière, mais j'ai fait un exercice il y a à peu près un mois. Je me réveille la nuit. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une idée en me réveillant. À peu près 2 heures du matin. Je dors quand même plus que 2 heures pour ceux qui se posent des questions. À 2 heures du matin, je me réveille puis je dis, OK, l'inquiétude, c'est quelque chose qui est présent dans ma vie. Je veux travailler ça. Puis là, je fais juste une petite recherche. Plein de passages qui parlent de se confier dans le Seigneur, de ne pas s'inquiéter. Je m'en fais une liste, puis je prends un engagement avec Dieu. Seigneur, à partir d'ici, chaque fois que je perçois de l'inquiétude qui vient en moi, je m'en vais tout de suite traiter ça avec ces passages-là. C'est vraiment une grâce. Et Dieu m'a béni avec mon voyage, je vous ai raconté ça, à Vancouver. Le domaine des relations, le domaine des circonstances. Dans tous ces domaines-là, Dieu veut qu'on livre une bataille. Et je veux prendre le temps de souligner le fait que c'est vraiment une bataille. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est un combat spirituel. Et donc, ne pensez pas si vous avez la joie difficile, peut-être dans cette saison-ci de la vie, où vous êtes quelqu'un pour qui c'est vraiment une lutte, un combat. Vous n'êtes pas naturellement optimiste. Ce n'est pas de ça dont on parle ici. Moi, je suis naturellement optimiste, naturellement inquiet. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. C'est que c'est une bataille spirituelle que j'ai à livrer quotidiennement. On est engagé dans un combat spirituel. Je sais qu'on ne jase pas souvent de ça, on n'est pas comme... Je ne veux pas vivre toutes mes journées en voyant le diable dans ma soupe à chaque fois que... Mais non, c'est le Seigneur que je veux voir. Mais si Dieu est là, si Dieu est vivant, le diable est aussi. Et il veut m'enlever cette joie-là. Il n'y a rien de plus efficace pour faire taire un chrétien, pour qu'il n'annonce pas l'Évangile, que de lui enlever sa joie. Il va devenir silencieux, il va avoir le sentiment d'être un hypocrite s'il annonce Christ. C'est véritablement un combat qu'on a à livrer. On lit dans Éphésiens 6, versets 10 à 12, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Réjouissez-vous dans le Seigneur, fortifiez-vous dans le Seigneur. « Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, à travers les relations qui vont enlever ta joie, à travers les circonstances qui vont enlever ta joie. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si tu n'es pas chrétien, c'est peut-être très étrange d'entendre ça, mais oui, comme chrétien, nous ne croyons pas que l'univers se résume à ce que nos yeux voient. On pense qu'il y a beaucoup plus que ça, en commençant par Dieu, mais en commençant aussi par des esprits qui veulent détruire, qui veulent te détruire. Et peut-être que dans ta vie, même tu l'as expérimenté, des moments où tu vas faire des choses horribles, de destruction, tu ne vois même pas d'où c'est venu. Tu ne l'as pas vu venir. Tu as une réaction, puis tu as beau faire 25 ans de thérapie. Il y a quelque chose en toi qui cherche à détruire. Il y a un combat spirituel qui est là, à livrer. Et c'est une bataille pour la joie. Livrer le combat spirituel à tous les jours, si tu es chrétien comme moi, c'est livrer la bataille de la joie. Prendre la décision qu'aujourd'hui, peu importe les circonstances, peu importe l'état des relations dans ma vie, je vais me réjouir dans le Seigneur. Parce que c'est un impératif. Et je vais livrer cette bataille-là. Pourquoi est-ce que je veux le faire? Parce que Dieu l'a vraiment à cœur. Je veux marcher dans la plénitude de l'Esprit. C'est ce que les Écritures nous disent. Paul nous dit, « Soyez remplis de l'Esprit. Je veux être habité des pensées de Dieu, de la puissance de Dieu, Et une des clés pour ça, c'est d'être attentif à ta joie. Parce que ça dit beaucoup sur l'état de ton âme. Livre cette bataille-là quotidiennement. Ta paix, la paix de l'Église et son témoignage en dépendent profondément. Alors, on a vu deux domaines la semaine dernière, les relations, les circonstances. On parle des pensées maintenant. Check tes pensées. Parce que la joie dans le Seigneur commence par nos pensées. Et j'aime vraiment ce que Paul fait ici. Il dit « Nourris tes pensées ». Ce n'est pas un test que Paul nous donne lorsqu'il nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Ce n'est pas un test. C'est un programme qu'il nous donne. C'est littéralement un programme. Et c'est drôle parce que j'étais en train de méditer sur tout le passage cette semaine, puis je me disais, OK, j'enlève Jésus de l'équation, puis j'ai un programme de développement personnel. Tu sais, littéralement. Toujours dans la joie, ça va être une bonne journée. On va l'attaquer, ça va être une bonne journée. Je vais faire du bien autour de moi, hein, si je sème le bien. C'est ça, les programmes de développement personnel. Je sème le bien, ça va me revenir. C'est le karma. Ça va me revenir, tout ça. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai des inquiétudes, c'est destructeur. T'sais. Fait que je ne vais pas garder ça en moi. Je vais mettre de côté. Pensée positive, je vais mettre ça de côté, les inquiétudes. Je vais m'assurer que j'envisage. Hein? J'ai une vision de ce que je vais accomplir. Puis enfin, mais je vais passer à l'action. J'ai un programme de développement personnel. Mais ce n'est pas ça l'idée ici. C'est dans le Seigneur. C'est avec Christ. C'est par sa puissance. Ce n'est pas moi qui me développe avec de la pensée positive. Non, non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas un test qui m'est donné ici où chaque fois que j'ai une pensée qui n'est pas juste, qui n'est pas vraie, qui n'est pas honorable, qui n'est pas digne d'approbation, là, je me sens coupable. Non, c'est un programme pour apprendre à bien penser, pour apprendre à faire ce qui va glorifier Dieu et qui va me conduire dans cette joie avec Christ, littéralement. Paul me donne un programme. Tes pensées en général, est-ce que tu pourrais les qualifier de ça? Si tu penses à cette semaine, est-ce que tu dirais qu'en général, tu penses à ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange? Est-ce que c'est ça qui nourrit tes pensées? Ou est-ce que tu es dans des réflexes, des pensées impulsives, des conflits, des convoitises, des désirs, des vengeances, du mépris, de la haine? Une des pensées qui me vient le plus naturellement, je pense que ça court assez profondément dans ma famille, pas mon épouse, l'autre famille avant, c'est le mépris. Et que ça vient vite chez moi. C'est fort, là. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose, puis j'ai du mépris qui vient en moi. Puis Dieu me donne un programme. Il me dit, Yannick, est-ce que c'est vrai ce que tu es en train de penser là? Peut-être que oui. Peut-être que la personne est un peu méprisable. OK. Est-ce que c'est honorable? Peut-être pas. Est-ce que c'est juste? Bien, je ne sais pas, parce que souvent, je méprise des étrangers. Je n'ai pas marché beaucoup dans leurs mocassins pour savoir ce qui se passe. Pourquoi ils ont ce comportement-là? Il vient peut-être juste de raccrocher avec son médecin et puis il a appris qu'il doit rentrer de toute vitesse aller voir son médecin parce qu'il y a de très mauvaises nouvelles pour sa santé. Je n'ai pas de contexte. Je n'ai aucune idée si c'est juste. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est aimable? Bien, le mépris est rarement aimable, hein? Vous admettrez que c'est assez incompatible comme notion. J'ai réalisé que lorsque mon mépris est comme ajusté par l'Esprit-Saint, en général, ça devient de la compassion. Ça devient comme une pitié non méprisante, une pitié qui est animée de compassion. Est-ce que ça mérite l'approbation? Tu sais, si tout d'un coup, ta pensée avec un Neuralink était publiée sur Internet, il y a un compte Twitter qui suit toutes les pensées d'Yannick, qui publie tout. Il y a une belle pensée de mépris qui me passe par la tête. Est-ce que c'est digne d'approbation? Est-ce que c'est vertueux? Non seulement est-ce que c'est digne d'approbation, mais est-ce que c'est digne de louange? Wow! Moi, j'aimerais être dans le cerveau d'Yannick à chaque instant. C'est incroyable. Je vous dis, c'est un programme qu'il nous donne. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire avec? Bien, tu peux commencer tes journées avec ce verset-là, puis dire, Seigneur, par ta grâce aujourd'hui, ça, c'est mon programme de pensée. Et déjà, je vous dis, c'est génial. C'est génial. Je m'appuie sur la grâce de Dieu, puis j'atteindrai pas le programme, on s'entend? Mais je m'appuie sur la grâce de Dieu. Mais tu peux faire un autre exercice aussi. Je vous dirais qu'il transforme encore plus. Si je te posais la question, qu'est-ce qui occupe le plus tes pensées ces derniers jours? Fais juste l'évoquer dans ta tête. Qu'est-ce qui occupe le plus tes pensées ces derniers jours? Tu veux juste prendre ça. Ce n'est pas un guilt trip. Je vous donne un programme pour vivre votre joie. Mais moi, je vous mets au défi. Tout de suite, d'identifier un moment aujourd'hui, cette semaine, où tu vas prendre une feuille de papier, tu vas écrire ce sujet-là, ce qui occupe, même si ce n'est plus d'actualité. Puis là, tu dis, est-ce que mes pensées suivent le programme concernant ça? Et si ce n'est pas le cas, et si j'adoptais une pensée aimable envers cette personne haïssable, quelle tournure ça pourrait prendre? Voyez-vous, c'est littéralement un programme que le Seigneur nous donne. Moi, ça me fait du bien quand j'ai des pensées qui ne sont pas chic, qui ne sont pas édifiantes, d'évoquer ce verset-là dans mon cœur. Parce que là, je dis, oh, Seigneur, je voudrais avoir une pensée qui serait digne de louange dans cette circonstance-là. Puis là, c'est mon esprit explore avec Dieu. C'est un moment de prière, c'est un instant. Je dis, mais si j'adoptais ton programme face à cette situation-là, cette personne-là, cette circonstance-là, qu'est-ce que ça changerait concrètement dans ma vie? Donc, je t'invite cette semaine, si je te dis, qu'est-ce qui occupe le plus tes pensées ces derniers jours? Tu le sais, c'est quoi? Et juste faire l'exercice, prends 30 minutes, dis un mot de prière, écris, dis, Seigneur, on va regarder c'était quoi l'état par rapport au programme. Tu prends ce passage-là. Puis ensuite, tu révises ça à la lumière de la parole de Dieu. Et si c'est ton esprit qui me guidait, qu'est-ce qui changerait? Et Dieu va être en train de renouveler ton intelligence. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est un programme surnaturel qui nous vient de Dieu. 4 domaines qui vont affecter ta joie dans le Seigneur. Les relations, les circonstances, les pensées. Puis maintenant, un des principes les plus importants de toute la Bible, c'est le principe de la cohérence. C'est saisissant quand tu commences à lire la Bible. Vous savez, il y a toutes sortes de critiques à faire contre les chrétiens, contre les religieux. C'est vrai. C'est vrai. J'ai dû citer au moins 20 fois déjà la parole de mon ami Mark Dever, parlait avec une dame qui lui disait « Ah, moi, je ne vais pas à l'église parce que l'église est pleine d'hypocrites. » Qu'est-ce qu'il a répondu? « Vous avez raison, madame, puis on a toujours de la place pour une de plus. » C'est vrai. C'est vrai. Ce que j'aime de la Bible, c'est que la Bible défend le principe de la cohérence. Et comment elle le fait? Une des manières qu'elle le fait, c'est premièrement en nous exhortant, en nous ordonnant d'être cohérents entre ce qu'on prêche et ce qu'on fait, mais deuxièmement, en exposant constamment à répétition les failles morales de ceux qui sont élevés dans les Écritures. Vous pourrez, à part Jésus, qui est Dieu le Fils, les failles morales des plus grands leaders sont exposées parce que Dieu veut que nous soyons cohérents. Au Québec, on appelle ça, hein, vous connaissez l'expression, vous ne connaissez peut-être pas, que tes bottines suivent tes babines. Vous comprenez l'idée? Tes comportements devraient suivre ce que tu professes. Tu devrais aller au même endroit que ce que tu déclares. Et j'aime ce principe-là de cohérence. Paul dit au verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et que vous avez vu en moi. » Non seulement ce que vous avez entendu prêcher, mais vous l'avez vu en moi. Vous savez que je m'efforce de vivre ce que je prêche. Il dit, pratiquez-le maintenant. et le Dieu de paix sera avec vous. Mettez-le en pratique. Soyez cohérents. Une des choses qui tue le plus l'âme, c'est l'incohérence. Ça détruit les témoignages. Ça détruit des témoignages incroyables. Mais ce n'est pas de ça dont je vous parle, parce qu'on est dans le contexte de la joie ici. Et une des choses qui détruit le plus notre joie profonde, c'est d'être incohérent. Je sais ce qui est bon, j'ai discerné le bien à faire, on m'a instruit et je ne le mets pas en pratique. Et donc, Paul dit ici, « Ce que vous avez entendu de moi et vu en moi, mettez-le en pratique. » Je pense qu'il le fait pour plusieurs raisons. Il y a des choses qui s'apprennent en observant les autres. Il y a des principes, il y a des concepts, il y a des choses qui sont vraies, qui sont importantes. It rings true. Ça sonne juste quand tu l'entends, mais te projeter à le mettre en pratique, à le faire, c'est comme, c'est abstrait, c'est surréaliste, ça n'a pas de l'air accessible. Tu dis, moi, je ne serais jamais capable de bien réagir comme ça. Et il s'agit que tu aies une personne dans ta vie, un modèle, que tu observes, tu le regardes le mettre en pratique. Regarde les parents qui savent à la fois faire preuve d'autorité avec leurs enfants et beaucoup d'affection. Quand tu le vois, tu apprends à le mettre en pratique. Les livres ne suffisent pas. Et donc, Paul dit, ce que vous avez entendu et vu en moi, mettez-le en pratique. Ça a beaucoup d'implications. Ça veut dire que si tu n'es pas en mesure d'identifier des modèles que tu cherches à imiter, tu vas avoir beaucoup de difficultés à appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Si ta vie chrétienne est vécue en silo, puis tu ne connais pas des chrétiens matures, que tu admires, que tu respectes, ce n'est pas un problème d'admirer quelqu'un qui marche dans la foi, de l'observer. J'en ferai pas un Dieu. Il est imparfait, il va me décevoir. Mais justement, il se repent. Et donc, est-ce que tu as de ces modèles dans ta vie et est-ce que tu acceptes d'être un modèle? Parce que Paul n'est pas là pour qu'on l'imite, hein, juste en passant. Ça fait un bout de temps qu'il est parti. Mais plutôt, il dit « imiter ceux qui m'ont imité ». Et donc, est-ce que tu acceptes d'exposer ta vie, ta maison, ta vie personnelle, tes combats, tes luttes? On essaie, à l'espoir, dans notre manière d'enseigner, d'incarner ça. Je ne pense pas que vous nous entendez souvent parler de nous-mêmes comme si on était rendu là. Au contraire, on va plutôt parler de nos propres faiblesses, nos propres combats. Ce n'est pas parce qu'on tient à être les gens les plus humbles au monde. C'est parce que c'est comme ça qu'on apprend à grandir. C'est parce qu'on veut être cohérent. Et je suis la première personne à dire que Yannick Étier n'est pas toujours cohérent. L'Esprit me le rappelle constamment quand il me conduit dans la repentance. Est-ce que tu acceptes d'être un modèle que quelqu'un va pouvoir imiter? Mais enfin, accepte aussi que ça va prendre du temps. Il va falloir que tu le mettes en pratique. Et mettre en pratique, apprendre, c'est un pas à la fois. Ça va très, très, très lentement. Je pense que je vous ai mentionné, j'ai commencé un peu à faire du bloc, de l'escalade intérieure. J'en avais fait quelques fois avec mon père quand j'étais plus jeune, puis après ça avec un ami, puis c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, qui m'a fasciné. Je vous avoue que j'aime mieux la montagne, la roche. Mais bon, mon fils Bastien s'est mis à faire du bloc, fait que j'ai dit « cool, on va aller faire du sport ensemble ». J'ai toujours aimé ça. Mais je répète à chaque fois à Bastien, j'ai dit « Bas, moi j'ai 53 ans ». Fait que les trois premiers mois, là, ce n'est que du conditionnement physique que je fais. Je m'en contrefous de rester sur du V1 pendant trois mois. Mon seul objectif, c'est qu'après trois mois, je puisse encore en faire. Tu comprends? Parce que si je vais trop vite puis je regarde l'araignée, parce que je la regarde monter puis c'est ça que je vois une araignée qui grimpe. Si je regarde l'araignée puis je dis « Hey, le jeune, je vais lui montrer », j'en ferai pas longtemps. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas vraiment blessé encore. Voyez-vous, mettre en pratique, c'est ne pas me décourager parce que je ne suis pas l'apôtre Paul, je ne suis pas le modèle que je veux imiter. C'est que je vais juste faire un pas à la fois. Je vais me reposer dans la grâce. Il me semble qu'on prêche suffisamment à l'espoir la grâce pour que tu oses demain matin, que tu oses aujourd'hui essayer de mettre en pratique la parole de Dieu. On revient constamment à la grâce. Tu ne seras pas l'apôtre Paul demain. Tu ne seras pas parfait demain. Et c'est pour ça qu'on a des modèles, qu'on cherche à les imiter. Mais si tu négliges ça, si tu négliges ce principe-là de cohérence, ta joie ne sera pas disponible. Tu vas chercher des sources de rire dans ta vie. Tu vas chercher à te distraire de ta vie. C'est souvent à ça que ça sert, hein? Le rire, dans notre culture, ça sert à se distraire de la réalité. Je m'en vais écouter un bon show d'humour, ça fait du bien pendant 2 heures, j'ai oublié mon quotidien. Ce n'est pas de ça dont on parle ici. Non, je vous parle d'une joie qui affronte le quotidien. Elle ne sert pas à s'en distraire, elle sert à l'affronter, à vivre dans ce quotidien-là. Et je pense aux plus jeunes. Je pense aux plus jeunes, le monde va continuer à entraîner un paquet de souffrances dans ta vie. Ta joie va être facile à faire disparaître. C'est quoi les sentiments qui sont à l'opposé de la joie? C'est quoi? C'est la colère, c'est la peur, c'est l'anxiété, c'est la tristesse, c'est l'apathie. Ça va venir comme des vagues qui vont vouloir te submerger. Puis apprendre à vivre dans la vie, c'est dire, il y a d'autres vagues qui s'en viennent. Puis apprendre à vivre dans la vie chrétienne, c'est me préparer à ces vagues-là en cherchant ma joie en Jésus-Christ. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. Est-ce que Dieu te parle de ta joie ce matin? Est-ce que la joie est absente dans ta vie? Parce que l'absence de joie et de paix devrait attirer ton attention. Il y a des gens qui ont une attitude, puis des fois, je pense qu'on le fait tous, tu commences une journée, puis tu te dis, celle-là, on va passer à travers en bûchant. Tu baisses la tête, tu fonces. De toute façon, ça va être une mauvaise journée. Ça, c'est attaquer une journée en absence de foi complète. Parce que je ne sais pas si ça va être une mauvaise journée. J'ai une idée des épreuves qui sont devant moi, mais je n'ai aucune idée si ça va être une mauvaise journée. Je ne sais pas, c'est Dieu qui le sait. C'est Dieu seul qui le sait. En l'absence de paix et de joie dans ton cœur, tu devrais porter attention à ça. Parce que l'Esprit de Dieu veut te faire grandir dans la joie et dans la paix. Est-ce que Dieu te parle de ça ce matin? Accorde une grande attention à ta joie dans le Seigneur, parce que ta paix, la paix de l'Église et son témoignage en dépendent. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et si tu grandis dans ta joie, le Seigneur va te donner un cadeau incroyable aux gens autour de toi. Dans les circonstances difficiles, tu vas réussir à faire un sourire qui ne sera pas hypocrite. Tu vas juste regarder ce qui est devant toi en disant « Je sais que le Seigneur est avec moi. » Je sais qu'il me réserve de bonnes choses. Je sais qu'il est au contrôle de ma vie. Je me confie en lui, puis je peux t'offrir un sourire ce matin. Et ce n'est pas de l'hypocrisie. Et c'est un cadeau extraordinaire. Offrir un sourire parce que tu trouves ta joie dans le Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut te bénir parce que tu es merveilleux. Tu es fidèle, tu es grand, tu es puissant. Tu es un modèle, Seigneur, un modèle d'humilité, de douceur, de charité, de consolation, de paix, de joie, d'une vraie joie. Et Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu veux nous donner la paix et la joie, cette paix joyeuse, cette joie paisible qui est disponible en toi. Seigneur, je te prie de nous parler ce matin, de continuer à nous parler alors qu'on va prendre le repas du Seigneur, de continuer à nous parler alors qu'on va aller dans la louange, de continuer à nous parler cette semaine. Aide-nous à être attentifs, Seigneur, à ce qui nourrit nos pensées. Aide-nous à être attentifs, Seigneur, à cette cohérence que tu veux apporter dans nos vies. Aide-nous à être attentifs à cette présence ou à cette absence de joie dans le Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas chercher simplement à se distraire du quotidien par des rires, mais à trouver une joie qui nous conduit dans le quotidien, en toutes circonstances, dans toutes les relations, dans toutes nos pensées, dans toutes nos actions. Seigneur Jésus, je te prie de nous convaincre ce matin que tu veux nous donner ce fruit-là, que cette grâce-là est disponible. Viens nous parler par ton esprit, Seigneur. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.